Galade 100.9.
Parlons nutrition.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Nutrition, une émission animée par Charline Simian. Bonsoir Charline.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
Et aujourd'hui vous n'êtes pas venue toute seule.
Et non, je suis venue accompagnée d'un invité que j'ai hâte de vous présenter, qui est psychologue et qui va nous montrer et nous expliquer un petit peu son parcours qui est assez riche. Et c'est pour ça que j'ai souhaité le faire venir, c'est parce qu'à mon avis on a des trucs à se raconter.
Super. Et donc, c'est Yannick Descharmes.
Et mais bonjour, bonjour à tous les deux et bonjour aux auditeurs. Et oui, on a plein de trucs à se raconter, ça va être un bon kiff.
Alors, j'ai cru comprendre que tu avais un parcours un peu atypique au sein du soin, justement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça?
Ah oui, j'aime bien dire que je suis un jus multifruit. Il y a plein de fruits, je ne sais plus trop la proportion. Mais oui, en fait, j'ai commencé, j'étais kinésithérapeute Et en fait, depuis tout petit, je me suis toujours posé la question de pourquoi les gens souffrent. Donc je fais kiné, je trouve une partie des réponses, je me dis « m'en manque », je me dis « je vais faire psychologue », je commence à faire la fac de psycho, mais à un moment donné, il faut bosser, donc je redeviens kiné. Et j'ai fait plein de formations, de l'hypnose, plein de choses, jusqu'à ce que le destin me rattrape en disant « mais quand même, t'as oublié la moitié, où est l'esprit ?» Et donc j'ai engagé la faculté de psychologie, et je suis psychologue depuis 7-8 ans, mais j'ai arrêté kinésithérapie depuis.
D'accord, donc tu ne t'occupes plus des corps, mais plutôt des esprits.
Si tant est qu'on pouvait séparer le corps et l'esprit, mais on va dire que je suis plus kiné, exactement.
Très bien. Et quelles sont tes spécialités en termes de psychologue? Parce qu'on connaît tout un panel de choses dans la psychologie. Moi, je sais que je t'ai fait venir pour un certain nombre de tes formations, notamment des spécialités que tu as embrassées, mais j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus.
Alors c'est vrai que les psychologues, limite, c'est pas très audible parce qu'on a plein de techniques, on s'y perd. Et donc, c'est comme une caisse à outils, chacun la sienne. Moi, c'est les thérapies cognitives et comportementales. Les thérapies cognitives et comportementales, c'est ce que je fais dépend de ce que je me dis, de ce que je ressens face à une situation. Et plus particulièrement, ce qu'on appelle les thérapies d'acceptation et d'engagement, qu'on a dit ACT. En fait, c'est de la thérapie cognitive et comportementale, mais disons que nos pensées, nos émotions, plutôt que de chercher à les faire disparaître, bon, on apprend à les canaliser, les dompter et avancer dans sa vie, quoi.
Globalement, tu donnes une technique pour emprunter un chemin sur lequel on serait bloqué.
En fait, ça s'appelle ça une thérapie d'apprentissage. Moi, je pars du principe que les gens ne sont pas malades, sont coincés. C'est qu'ils sont des personnes, peut-être pas avec le bon mode d'emploi. Puis quand tu n'as pas le bon mode d'emploi, tu ne te plains pas de... Moi, tu vois, je fais 1m95, on a pu le remarquer. Si je ne suis pas au courant que je fais 1m95, je ne vais pas plier les genoux. Si je ne plie pas les genoux, je ne me plains pas d'avoir une hernie. Bah, en psychologie, si tu ne sais pas gérer tes émotions, tes pensées, si tu ne sais pas pourquoi tu te lèves le matin, eh bien, du coup, ça devient compliqué d'avancer dans la vie. Donc, c'est une thérapie d'apprentissage. Et donc, il y a plein de leviers, plein de processus. On appelle ça une thérapie processuelle. On pourra en reparler après.
Alors, ce que je ne vous ai pas dit sur Yannick, c'est que je l'ai fait venir parce que c'est aussi pour ceux qui suivent l'émission régulièrement et éventuellement pour ceux qui nous écoutent et qui viennent au cabinet, l'inventeur, le copywriter de Monsieur et Madame Relou. J'aimerais bien que tu m'expliques un peu d'où ils viennent ceux-là.
Alors, si on va reparler en tant que psychologue, la base, c'est, on part du principe que nos pensées ne sont pas des problèmes. C'est que notre tête nous raconte plein de choses, et puis, vu qu'on est le fruit d'une éducation, on a entendu plein de pensées, on les a intériorisées. Et parmi toutes ces pensées, il y a des pensées désagréables, t'es nul, t'y arriveras jamais, t'es trop petit, t'es trop grand, mais de toute façon, j'ai toujours su que depuis tout petit, t'étais comme ça. Et donc, on apprend en thérapie à prendre de la distance avec ses pensées, plutôt que de chercher à les faire fuir. Parce que plus je fais des choses pour ne plus penser, si je vous interdis, chers auditeurs et tous, de ne pas penser à un éléphant rose, où est-ce que j'ai le droit à faire des exercices touchy? Je peux. Je vous interdis formellement de penser à votre belle-mère toute nue. Et voilà, forcément. Et donc, plus on lutte, plus c'est compliqué. Donc, ces pensées désagréables, ça me fait penser à mon tonton et ma tata relou. Qui me disent, mais Yannick, t'es nul, t'y arriveras jamais. Tous ces conseils. Alors, ils m'aiment bien, tonton, tata relou. Sauf que quand on les écoute trop, en fait, on n'agit plus. Et donc, l'exercice, c'est dire, merci, madame relou, merci, tonton relou, t'es gentil, mais là, pas maintenant. Comme mon oncle relou qui pourrait me dire, mais de toute façon, depuis tout petit, tu fais pipi au lit, ouais, mais t'es gentil, mais là, c'est bon, j'ai 47 ans, c'est fini.
Oui, alors après, j'en ai beaucoup, moi, des monsieur et madame relou qui viennent en consultation accompagner leurs patients, notamment. On essaye de les débusquer un petit peu et de les identifier pour, justement, quand ils sont présents autour de l'assiette, pouvoir dire, si tu pouvais revenir à un autre moment, ce serait sympa. Ou mes patients qui vont avoir des troubles des conduites alimentaires, où on essaye de débusquer quand est-ce que monsieur ou madame relou se pointe, justement pour venir nous dire qu'on est trop nul, qu'on a tout raté et que la diététicienne va pas être contente.
Et pensez de petits enfants.
Oui, souvent. Donc, dans ton parcours, tu as donc ce monsieur et cette madame relou. Je sais que tu as plein d'autres bestioles bizarres dans ton escarcelle. J'ai vu passer des Legos, j'ai vu passer tout un tas d'artifices qui te permettent donc d'accompagner tes patients au quotidien en consultation, j'imagine.
Oui, mais en fait, je crois que j'ai rien inventé. Hein. Ça s'appelle la métaphore. Hein. C'est ce que fait l'être humain depuis des dizaines d'années. Quand tu as un problème, t'en fais une marionnette, t'en fais un guignol pour ces légionnaires. C'est la métaphore, les dessins animés. Bon, on sort des Legos, on fait des dessins et on illustre. Et puis, quand on fait des. Moi, clairement, j'ai appris comme ça. Hein. Quand tu me fais un dessin, je comprends tout. Sans dessin, c'est compliqué. Donc, tu mets un dessin, de la couleur et en plus, tu me racontes une histoire. On n'a pas fait mieux depuis le petit Pousset et les Disney, quoi.
Moi, je vais peut-être me mettre au dessin, même si...
Alors moi, je dessine comme un pied, on est d'accord, mais à un moment donné, tu fais des bonhommes bateaux, ça passe.
Ça marche, effectivement. J'ai des patientes qui ont très, très bien illustré, justement, cette Madame Relou. Je leur ai demandé de me la dessiner, de me la formaliser. Et j'ai eu des dessins assez magnifiques et assez effrayants, parfois aussi. Yannick, tu as également, me semble-t-il, eu quelques talents de rédacteur ces derniers temps, en ayant publié un livre. On en parle ?
Allez, mon madame Relou me dit, mais Yannick, mais bon, on va vraiment parler de ton livre. Je lui dis, merci monsieur Relou, mais c'est quoi, je pourrais quand même parler, c'est mon bébé.
Eh bien allez, je t'en prie, présente-nous donc ton livre.
Alors en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que ce livre, en fait, il remonte à loin. En fait, vu que je suis un type énervé, dès qu'il y a un truc énervé, moi, je peux pas m'empêcher. Donc, effectivement, j'écrivais un blog, ça fait 10 ans. Et à un moment donné, on m'a dit, Yannick, arrête de nous saouler, écris un bouquin maintenant, parce que
le blog,
tu nous saoules. Ouais, ça va.
Blog, ça va 5 voilà. minutes.
Et en fait, vu que je suis un petit, vous avez compris que j'étais quand même un gamin qui joue, on m'a dit, Yannick, pas cap. Et moi, j'ai dit quoi ? Pas cap d'écrire un livre ? Et j'ai commencé à écrire un livre sur... moi, sur ce qui me passionne, comment... En fait, je ne suis pas le genre de psy qui est là pour chercher des problèmes. Oui, je suis là pour les soigner, mais je suis là pour leur donner du bonheur. Alors, donner du bonheur dans le sens où, pas moi, mais de leur permettre de kiffer la vie, quoi. Parce que, on pourra en parler, kiffer la nourriture, kiffer les écureuils, etc. Et le bouquin s'appelle « Trouver son bonheur dans sa tête et dans son corps ». Et en fait, en gros, je raconte l'histoire de 3 personnages qui sont coincés entre leur tête et leur corps. Et que ce soit une jeune fille qui s'appelle Alban, qui a 14 ans. Et alors là, le corps, à cet âge-là, pouf, une fois qu'elle a mis des hormones...
Ça fait que bouger, ça change.
Je sais pas. Et donc du coup, on l'accompagne. Une dame qui s'appelle Julie, 40 ans, crise de mi-vie. On se dit, oula, mon corps, il est le corps d'une maman de 3 enfants.
Et il a changé aussi.
Elle a changé, puis elle se dit, mais qui suis-je, où vais-je ? Et puis le corps d'un jeune de 35 ans qui dit, mais moi je suis fort, je porte tout, je porte la terre, il se pète le dos. Et à expliquer entre il en a plein le dos, c'est une dépression et un burn-out, et il en a plein le dos, c'est une hernie discale. On accompagne ces 3 personnages. Enfin voilà, un peu pour le pitch.
On retrouve donc Yannick, et psychologue et kinésithérapeute, voilà. Pour le côté Atlas et pour le côté hernie discale.
Tout à fait compris.
Et du coup, alors c'est bien, trouver son bonheur, joli programme. Mais on cherche où ?
Et en fait, déjà, ce qui est important, c'est de le chercher. Ce qui est important de comprendre, c'est que depuis centaines d'années, pour ne pas dire milliers d'années, c'est un peu le but de toutes les spiritualités, de toutes les philosophies. C'est pour ça que dans ce bouquin, en fait, je mêle la philosophie, la psychologie et la biologie. Parce que, en fait, le bonheur, en fait, la philo, en fait, dans ce bouquin, il y a de la philo, mais c'est de la philo expliquée à mes gamins, la philo telle que j'aimerais la comprendre.
Avec des dessins.
Des dessins, c'est ma fille qui fait les dessins. Et surtout, mais des métaphores, des choses qu'on comprend, les métaphores. Sauf que la philo, quand on l'explique bien, c'est simple. Et la philosophie, c'est tendre vers le bonheur. La psychologie, c'est tendre vers le bonheur. Parce que les gens, quand ils viennent me voir en consulte, c'est pas toi en diète, c'est quand même retrouver le bonheur. Des quand même, et puis bah, la biologie, si on regarde bien, moi quand je vois mon chien, là je sais parce qu'il fait beau. Il a les pattes en l'air et lui clairement il n'y a qu'une chose, c'est trouver le bonheur. S'il peut choper le chat, il ne va pas se priver. Mais mon chat kiffe aussi parce qu'il est sur l'endroit le plus plaisant qu'il puisse trouver dans ma maison. Tout le monde cherche son bonheur.
C'est physiologique du coup presque.
Mais c'est de la physiologie. Nous sommes 550 millions d'années d'évolution, on est des animaux à la base. Et je ne vois pas un seul chien se dire « je vais quand même me mettre minable aujourd'hui avec Madame Relou ». Non, lui se met bien. Et donc ce que j'explique dans ce bouquin, c'est qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui fait que l'être humain a oublié ce que c'était que le chemin du bonheur.
Il est un peu compliqué les choses, quoi.
Ben, il a le langage, et le langage, c'est celui qui nous permet de toucher le bonheur d'une chanson, d'un texte. Mais ce qu'on se raconte, le langage, peut vite nous emmener dans les abysses les plus noirs.
C'est vrai que cette recherche-là, en diététique en tout cas, elle peut être bordée de tas de gens qui semblent bien intentionnés, qui vendent justement le bonheur par la perte de poids. Et souvent, malheureusement, les gens, ils arrivent chez moi et ils y ont laissé pas mal de bonheur, pas mal de joie de vivre. Et ils arrivent parfois un peu abîmés par ces vendeurs justement de bonheur par la maigreur. Et du coup, alors moi j'ai une petite définition du bonheur, mais tu la définirais comment, toi ? J'avais état de satisfaction des désirs.
Ah bah, je souscris, parce que ça, je dirais, c'est une définition littérale, donc c'est satisfaction des désirs. Après, c'est là où ça devient un peu tricky, c'est chacun vers cette définition du bonheur. C'est là où, en fait, c'est presque tyrannique de dire c'est ça le bonheur, pour tout le monde autour de circonstances. Le bonheur, c'est quelque chose, ça peut être, par exemple, je ne sais pas si on parle de philosophie, Épicure nous dit que le bonheur, c'est l'absence de souffrance. Bon, bah, moi, si je ne souffre plus, est-ce que je suis heureux ? Bah, selon cette philosophie, oui. Le bonheur chez les bouddhistes, ce serait justement l'absence de désir, l'absence de bien, l'absence de possession. Donc, plus de sexe, plus de bagnole, plus d'ailleurs. C'est chacun sa façon. Après, le bonheur, je crois qu'en fait, surtout, c'est le chercher, ce bonheur. Parce que, je ne sais pas ce que tu en penses, Charlie, mais si on le trouve, le bonheur, il se passe quoi ? Ça y est, tout le monde, là, tous ceux qui nous écoutent, j'ai ma baguette magique, tout le monde a trouvé le bonheur. Il se passe quoi ?
Est-ce qu'on s'en kikinerait pas un peu à un moment ? Est-ce que finalement, le bonheur, ce n'est pas la quête ?
Exact. Et si on sortait...
Et ça, non ?
Mais c'est exactement ça. Et en fait, c'est quoi le bonheur ? Une fois que tu l'as trouvé, ça s'appelle « L'envie d'avoir envie », chanson de Johnny. C'est qu'une fois que tu l'as trouvé, c'est la dépression, en fait. C'est que tu t'ennuies. Quand tu t'ennuies parce qu'une fois que tu as trouvé, non, c'est le chercher. Et donc, il y a une phrase que j'aime bien de Sylvain Tesson, le bonheur, c'est de se lever le matin et d'avoir un os à ronger.
C'est-à-dire que, par exemple, si je fais une chasse aux œufs pour une certaine période de l'année, ce qui est le plus plaisant, c'est pas tant de trouver les œufs et de les manger que de les chercher.
C'est les deux. Parce que tu vois bien que si tu cherches les œufs et que tu n'en trouves pas un seul, à un moment donné, le sentiment d'impuissance, c'est justement un subtil équilibre entre tu cherches ton bonheur, tu le touches, tu le cherches, tu le touches, tu cherches, tu le touches.
Un peu comme un ballon de baudruche, quoi. Ouais. Tu le touches, il s'éloigne un peu, il revient.
C'est ça.
Quelque chose d'assez inconstant, finalement.
C'est ça. C'est là où, justement, je pourrais sortir tous les philos, mais les philosophes, c'est ça qui est génial. C'est que moi, en fait, je suis un type qui a toujours pompé. Alors, en plus, je fais mes études à Villefranche, à Claude B, donc je veux pas dire que c'est de notoriété publique que j'ai peu fait de devoirs maison. J'ai beaucoup pompé dans ma carrière. Tant pompé les gens qui ont des bonnes idées. Et les philosophes nous disent, oui, une fois que t'es heureux, tant pis mon gars, hein, parce que du coup...
Tant pis pour toi.
Tant pis, hein. Donc il faut l'en chercher, mais... c'est comme les champignons. Il y a ceux qui disent quand même... imaginons, tu vas aux champignons, et en un quart d'heure, ça y est, c'est fini. T'as tous les champignons.
Ah oui, c'est comme mes patients qui vont dévorer le plat qu'ils ont tellement imaginé qu'ils allaient manger.
Exact.
Et qu'ils le dévorent parce que finalement... c'est vraiment un kiff. Mais ils arrivent difficilement à en faire quelque chose qui dure, pour le côté très explosif.
C'est là
bonheur.
Où c'est le plaisir. C'est la différence entre le bonheur et le plaisir. Tu vois, le plaisir, c'est vraiment c'est la dopamine, hein, système récompense. C'est très intense, mais c'est bref. Le bonheur, c'est ce truc, t'es beaucoup plus doux, beaucoup plus fondu. C'est un état de, je suis...
Mais c'est un état.
C'est un état.
C'est quelque chose de long dans le temps.
Ouais.
Donc en clair, si je résume, le plaisir, c'est vraiment... le bon bec qu'on va manger, extrêmement
shoot.
Sucré, qui t'éclate en bouche, celui qui pique, là. et puis, le bonheur, c'est plutôt le fameux poulet à la crème auquel tu tiens tant, avec ses petites morilles et cette saveur incroyable qui se prolonge en bouche.
Il y a de ça, mais il y a du plaisir aussi. Mais on pourrait même dire le bonheur, ça pourrait commencer en le moment où tu vas aller chercher ses morilles, le moment où tu vas le cuisiner, le moment où tu vas partager avec tes enfants. Tu vois, il y a quelque chose qui se fond.
Oui, oui, quelque
et
chose sur le long terme.
La Madeleine de Proust, il y a un bonheur, quelque chose là-dedans, quoi.
J'entends. Vague sujet que cet état de bonheur, je trouve ça très intéressant de l'évoquer parce que j'ai beaucoup de gens qui sont à cette recherche-là au cabinet avec cette idée absolue qu'il faut perdre du poids pour être dans le bonheur justement.
Rolling Stones sur Khaled avec Gimme Shelter. On est dans l'émission Parlons Nutrition avec Charline Simian et Yannick Descharmes. On est en train de parler d'un livre écrit par Yannick qui s'appelle Trouver son bonheur dans sa tête et dans son corps. Et c'est vous qui avez choisi la musique, Yannick.
Exact.
Pourquoi est-ce qu'on écoute les Rolling Stones?
Déjà parce que moi, mon bonheur, c'est déjà de me faire kiffer moi, donc j'ai kiffé l'écoute de ces morceaux. C'est déjà pas mal. Hein. Le bonheur commence par soi-même, c'est un peu le message du bouquin. Et en fait, déjà dans le bouquin, il y a des Rolling Stones. Mais je trouve que les psys, voilà, auraient beaucoup à apprendre des Rolling Stones. Et Gimme Shelter. Gimme Shelter, donne-moi refuge. Et moi, je me vois un peu comme un psychologue. Mon cabinet, c'est ce que je dis à mes patients. Je suis votre psychologue à vie. Vous revenez vous poser quand vous voulez. C'est votre refuge. Donc, on a besoin d'un refuge dans la vie.
C'est rigolo parce qu'il m'arrive très souvent de dire à mes patients, si vous avez un truc trop lourd, vous le déposez là. Il restera ici. Vous pourrez le récupérer la prochaine fois.
Et je trouve que je vous ai laissé un peu discuter avant, dans la première partie de l'émission, du livre et du bonheur en général. Vous avez surtout parlé du bonheur dans la tête, j'ai l'impression, on cherche le bonheur, où est-ce qu'on, comment ça se passe, mais vous n'avez pas forcément parlé du bonheur dans le corps. Et c'est la moitié du titre du livre, quand même.
Yes.
C'est quoi le bonheur, trouver le bonheur dans son corps, du coup?
Si tant est que le corps et l'esprit, on le sépare, mais en fait, l'idée, c'est que, en fait, ce titre est une imposture. Quand on dit trouver son bonheur dans sa tête et dans son corps, c'est que, déjà, on part d'un présupposé qui a tête et corps. Et en fait, on se rend compte au bout de 10 pages que la tête et le corps, en fait, on ne peut pas les séparer. Et donc, le sentiment de, on parlait du bonheur, ma tête me raconte des, je peux avoir des pensées, je peux imaginer, donc je peux écouter les Rolling Stones, sauf que mon corps, lui, me sécrète une petite hormone, elle s'appelle la sérotonine. Ça, c'est de la biologie. Donc, la sérotonine, ça fait chaud dans le ventre, ça fait chaud dans le corps. Et derrière, quand on écoutait les Rolling Stones, mon corps était en train de bouger. Et ça, c'est la tête et le corps qui sont de concert, quoi.
Qui fonctionnent ensemble. Et je trouve qu'il y a un lien, trouver le bonheur dans son corps avec Charine, qui est nutritionniste, c'est... Il y a des gens, un problème qu'ils peuvent avoir, c'est qu'ils n'acceptent pas leur corps. C'est, est-ce qu'on va forcer son corps à devenir ce qu'on a envie qu'il soit, ou est-ce qu'on va travailler dans l'autre sens et chercher à accepter son corps? C'est quoi,
vous? On ne peut pas forcer son corps à devenir autre chose.
On peut essayer de forcer à perdre du poids, etc. Mais c'est peut-être se malmener, je ne sais pas.
Ça dépend comment on va. Mais tu vois, c'est pour ça que... En fait, pour moi, la philosophie me passionne. Comme je disais, j'aime bien pomper les bonnes idées. Mm. Et quand on voit les Platon, les corps platoniciens, c'est, bon, nous, les bonhommes, de toute façon, de ne pas se voir une statue grecque, ça calme tout le monde. On dit, bon, on va abandonner. Et les femmes, beaucoup plus cool quand même sur les statues grecques.
À l'époque.
À l'époque, ouais, ils ont été plus sympas. Mais en gros, l'idée, c'est... En fait, le corps, ce qu'on apprend en psychologie, est-ce que c'est le corps qui pose problème ou ce que je me dis du corps? Est-ce que monsieur Malambrelou, ma tête me dit, t'es trop grand, t'es trop petit? Mais à partir du moment où déjà je me tais et mon corps, je le laisse tranquille, moi, mon chien, il ne s'est pas trouvé gros. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ce qu'on se dit, donc la culture, donc la philo. Et c'est ça dont il faut s'extraire. Mais après, si moi, en tant qu'homme, je décide de me faire des pecs, si c'est moi qui le décide, je le décide, quoi. Bon, le problème, c'est que, à un moment donné, j'assume que les pecs, quand j'ai commencé, si je m'arrête, j'en ai plus.
Ils vont disparaître.
Il y a un prix.
Okay. C'est une vérité, c'est un quotidien au cabinet, effectivement, cette espèce de scission qu'il va y avoir, justement, entre le corps et la tête. Et très souvent, effectivement, j'ai des patients qui sont très centrés dans leur tête et qui, du coup, sont presque dans le refus de ressentir leur corps, soit dans leur corps. Mmh. C'est-à-dire les sensations alimentaires, par exemple. J'ai des patients qui ont complètement occulté ça. Ils ne savent plus s'ils ont faim, s'ils n'ont pas faim. Si ce n'est pas l'heure d'avoir faim, du coup, ils ne doivent pas avoir faim. Pour autant, les signaux sont là. Donc, ils sont complètement perturbés dans leur fonctionnement. Et c'est ce que dit Yannick depuis le début. Ce corps et cette tête sont indissociables, à part chez le poulet, qui peut survivre sans tête, mais bon, on en reparlera peut-être. Mais en vérité, effectivement, j'ai beaucoup de patients qui souffrent malheureusement beaucoup parce qu'ils ne retrouvent pas cet équilibre entre leur corps et leur tête. Ils ont un corps qui dérange. Je dis dérange volontairement parce que ce n'est pas forcément... eux, de prime abord, que ça dérange, mais tata machin ou l'influenceuse X qui vient leur faire une remarque sous un post où elle se trouvait plutôt mignonne, elle poste une photo, bam, c'est déferlement d'horreur. Et du coup, il y a vraiment ce côté détestation du corps. Et pourtant, ce corps-là, à un moment donné, il vous permet... de soulever des charges, de porter vos enfants, de courir après le bus, de vous lever le matin, de réaliser une somme incommensurable de choses. On parlait de biologie tout à l'heure. La biologie, l'organisme fait ça tout seul. Mmh. Le corps fait ça sans qu'on le lui demande. Quand bien même on le maltraite, il fait quand même.
Ouais.
Donc il y a vraiment cette notion de scission que j'ai beaucoup au cabinet et que Yannick retrouve peut-être aussi pas mal dans son propre cabinet d'ailleurs.
Quand on a du mal avec son corps à accepter son corps tel qu'il est, des fois c'est le regard des autres. Alors vous expliquez que le regard qu'on peut avoir sur son corps des fois peut faire une scission entre la tête et le reste du corps et que ça peut être un problème. Mais le regard des autres dans la vie, que ce soit sur le corps ou au quotidien... ça peut être un obstacle au bonheur.
Je l'attends, le regard des autres. Moi, je le cherche. C'est quand on me dit la société, j'y allais où? En fait, je crois qu'en fait, le regard des autres, c'est d'abord le regard qu'on porte sur soi.
On se l'invente.
Exactement, et on le projette. C'est la mécanisme de projection. Si moi, je me dis que je suis trop grand, je vais penser que tout le monde pense que je suis trop grand. Si je me dis, pour moi, grand, petit, c'est pas une question. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui jugent les gens sur le poids, c'est qu'eux-mêmes ont des problèmes avec le poids. Il faut savoir par qui on est jugé. Mais
pas forcément avec leur poids, mais avec le poids. C'est important. Parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément la personne qui vous fait une remarque qui a un problème avec son propre poids, mais qui a un problème avec le poids du voisin, par exemple. Et qui va se permettre de donner tout un tas de conseils, parce que tout le monde est nutritionniste à ses heures perdues. tout le monde est psychologue aussi, non?
Ça tente, mais... Ah ouais, non, je pense plus diète quand même. Diète, professeur, tout le monde. Mais déjà, avec les psys, on a mauvaise presse. Ça. Jouer au psy, ça...
Ouais, non. Ça peut faire plus de mal que de bien, à mon avis. Mais c'est
ouais, aussi valable pour la diététique. C'est comme chirurgien cardiaque, faut pas
non, faut pas jouer. Ou neurochirurgien, on évite. Donc, ce bonheur, on le cherche, on le touche du doigt, on l'approche, on tente de vivre avec, ou à côté, ou en parallèle. C'est vraiment nécessaire ?
Et c'est la vie, en fait. Quand je parle de biologie, 550 millions d'années d'évolution, quand vous regardez une forêt, je ne vois pas un arbre qui se dit « moi, je sais quoi, je vais tendre vers là où il n'y a pas de lumière ». Tout le vivant tend vers la lumière. Et donc, on est conditionné par les conséquences. Si je vais à droite et que c'est plus chaud, ben mon corps se rapproche de ses plus chauds. Même celui qui se cache dans les caves pour recevoir des coups de fouet en cuir, il va chercher le bonheur. Donc la douleur, oui, c'est très paradoxal. Mais en fait, l'être humain tend vers le bonheur.
Ça veut dire que le fameux grumpy grincheux que j'ai mis sur mon pull exprès aujourd'hui en l'honneur de ce livre du bonheur, il peut aussi avoir du bonheur, même en étant grincheux tout le temps.
En fait, l'idée, c'est tout ce que j'explique dans le bouquin, c'est qu'en fait, pourquoi on ne le trouve pas ? En fait, c'est le langage, ce que je me dis de mes pensées, ce que je me dis de mes émotions, ce que je me dis de mon corps, ce que je me dis de la vie. Si je me dis la vie, c'est nul, oui, ce langage-là, il m'éloigne du bonheur. Mais en fait, ce même langage-là, il peut m'aider à toucher le bonheur. Donc, peut-être ton grumpy, s'il se dit la vie, c'est nul, on va tous mourir, la planète va. Tu vois, ce langage-là, ça l'éloigne. Bon, par contre, on peut tout à fait lui apprendre avec le même langage. Tu vois, les émotions, on peut tout à fait... Moi, par exemple, je suis fier d'avoir peur de perdre ma femme, par exemple. Ça signifie que je l'aime. Tu vois, les émotions, on peut en faire une occasion de bonheur. Mes pensées, je peux tout à fait entraîner ma pensée, réfléchir à des choses tout à fait agréables. Et là, en fait, ça, c'est que... Ce que j'essaie d'expliquer, ce qu'on appelle une thérapie assez sur les processus. Il y a des processus. Comment tu lui permets de trouver un bonheur ? Je sais pas, tu l'étires, tu le muscles, tu veux faire de la course à pied, tu médites. Et la pratique ? Il y a une pratique du bonheur et ça passe par les émotions, les pensées, les directions de vie, l'instant présent dont on parle souvent et qui tout le monde court
échappe
après.
Échappe.
Alors
beaucoup.
Qu'en fait, c'est juste parce qu'on le conçoit mal. Et puis voilà. Donc ce bouquin-là, il va là. Et on termine quand même avec un truc où. Et justement, le dernier chapitre, ça dit, oula. Surtout, ne trouvez pas le bonheur du premier coup, cherchez-le. Et surtout, méfiez-vous des psys qui vous vendent des bouquins sur le bonheur. Parce que ce n'est pas une recette, c'est chacun fait son truc, quoi.
C'est chacun trouve le sien propre.
Sinon, c'est une tirade du bonheur. Moi, je suis très énervé contre les psys. Les psys qui vous filent des recettes, comme les diètes qui filent des recettes, c'est bien que ça marchait, ça saurait. Non, en fait, chacun le sien.
On arrive au terme du temps qui nous est imparti pour cette émission, malheureusement.
On a encore tellement de choses à dire.
Yannick, on peut vous rencontrer le 10 juin à Villefranche en dédicace.
Eh ouais, j'ai un grand plaisir de venir sur la ville de mes études, dédicace Cultura, 10h-18h, 10 juin. Avec un grand plaisir.
Et en attendant, si on n'est pas disponible le 10 juin, il y a des réseaux sociaux ou des choses où on peut vous suivre ?
À fond, vous tapez EOLE, psy, E-O-L-E, psy, P-S-Y, soit eolepsy.fr, soit eolepsy sur TikTok, Instagram, Facebook, dont on sait que les réseaux sociaux, ce n'est pas le bonheur friendly, mais bref, on communique comme on peut, quoi.
Ce serait le sujet d'une émission également, ça. Charline, merci beaucoup.
Merci à vous. Merci Yannick d'être venu.
Un grand plaisir, un kiff, bonheur. Là, il est là.
À très bientôt sur Calade.
Calade. 100.9.
Parlons nutrition.